Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Eh bien, au terme de l'Assemblée plénière des évêques de France, rassemblée ici à Lourdes comme chaque printemps, eh bien, nous avons la joie de vous avoir à notre micro, un rendez-vous hebdomadaire pour les auditeurs de Radio Présence. Alors évidemment, le sujet de notre entretien aujourd'hui, ça va être cette Assemblée plénière, une Assemblée qui a commencé par une session très importante, puisqu'il s'agissait pour vous tous, évêques, eh bien, de faire un petit peu un point sur tous les travaux et tout ce que vous aviez engagé, tout ce que vous avez travaillé depuis le rapport de la SIAZ. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment s'est passée cette session, ce que vous avez vécu et puis ce qui a été dit ?
C'est un engagement que les évêques avaient pris il y a un petit peu plus de 3 ans, ce rendez-vous, pour faire un point, non pas un point final, mais un point d'étape des engagements pris, de là où on en est, de ce qui a évolué, de ce qui reste à faire. Et je peux dire, pendant un jour et demi, ça a été intense. Intense en travail, intense en écoute réciproque, en témoignage, en conférence, intense en émotion aussi, parce que ben, de nouveau, les victimes qui étaient présentes, nombreuses, ont pu redire des choses, y compris le chemin fait depuis 3 ans, éventuellement des déceptions aussi qui demeurent, et voilà, autant d'aiguillons de ce qui, pour encourager à poursuivre le travail et souligner ce qui reste à faire.
Pardon, vous parlez de déception, vous pouvez nous donner un exemple de quelque chose qui a été pointé ?
Vous savez, quand on a été très très profondément blessé, abîmé, que toute sa vie a été bouleversée pendant des décennies, eh bien on ne peut pas être satisfait de ce qui est fait depuis 2 ans, 3 ans, en termes de restauration, de réparation, ben, c'est des processus extrêmement longs, et donc ben, il reste beaucoup à faire évidemment, et puis des choses sont irréversiblement irréparable, donc forcément ça s'exprime aussi, quoi, forcément. Hein. Bon. Mais je peux dire, et M. Boulin-Beaufort l'a souligné à la clôture, en remerciant les uns les autres, et notamment les personnes victimes d'avoir répondu nombreuses à l'invitation, en disant qu'au tout début du processus, seules quelques unités avaient accepté d'entrer dans cette relation avec les évêques pour travailler ensemble, souvent critiqué par d'autres victimes de collaborer avec l'ennemi, quoi, en gros, pour dire les choses caricaturalement. Et là, aussi bien à titre privé que dans le cadre de collectifs de victimes, y compris de Bétaram, on a eu de très très beaux témoignages de l'une ou l'autre victime dans un collectif là, de Bétaram, bien étaient là et ont participé à ces 3 demi-journées de manière tout à fait impliqué, sans langue de bois, évidemment, sans faire de cadeaux, mais dans un vrai, vrai climat, je dirais, de recherche commune du bien pour l'avenir, quoi, pour l'Église, pour la société, pour les personnes.
L'un de vos confrères évêques a parlé de cette session en disant, eh bien, en fait, au début, juste après le rapport de la SIAZ ou un peu avant le rapport de la SIAZ, ces victimes étaient face à nous comme des victimes témoins, alors que durant cette session, en fait, on a trouvé des frères et sœurs. On était comme frères et sœurs pour travailler ensemble. Vous avez ressenti ça, vous aussi ?
Complètement. Moi, je suis entré dans le processus en devenant évêque il y a 3 ans. Et de fait, j'ai trouvé ce compagnon. C'est le terme qui a été employé pour qualifier le type de relation. On n'est ni plus malin ni les uns que les autres. Enfin, vraiment, on est devant quelque chose qui nous dépasse, qui nous blesse tous, évidemment à des titres divers, mais on est compagnons de route pour faire mieux.
Hier, Mgr Aveline, dont on va reparler dans quelques instants, a répondu aux questions de la presse qui l'interrogeait sur les scandales qui émergent désormais dans l'enseignement catholique. Il disait qu'il faut maintenant que les diocèses et l'enseignement catholique travaillent de concert dans la lutte contre les abus. Alors, depuis la SIAZ, quand même, dans les diocèses, il y a deux chantiers que les évêques ont investis. D'abord, l'accompagnement des victimes et puis aussi la prévention, tout le travail de prévention pour que ces abus n'arrivent plus. Dans ce travail-là, dans ces deux chantiers, tout le travail pastoral des diocèses a été embarqué dans cette réflexion, dans les choses à mettre en place. Et en fait, la réponse de Mgr Aveline peut nous laisser penser que l'enseignement catholique n'a pas été pris dans ce travail qui est fait depuis le rapport de la SIAZ.
Alors je crois qu'il l'a fait, vraiment, et je sais qu'il l'a fait, mais il l'a fait avec ses propres réseaux, ses propres structures, ses propres outils, qui sont les outils habituels avec lesquels travaille l'enseignement catholique. Peut-être moins en lien au plan institutionnel, au plan national, avec les structures de la conférence des évêques, de même que les religieux l'ont fait dans le cadre de la COREF, par exemple, la conférence des religieux religieuses de France. Voilà. Et donc il en appelle sans doute au plus haut niveau de l'Église en France, à ce que les choses soient davantage coordonnées entre les instances de l'enseignement catholique et les instances de la conférence des évêques. Mais ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas, enfin, qu'en interne, ils n'ont rien fait. Au contraire, dans les diocèses, on est témoins tous, et je le suis dans notre diocèse, que nous sommes bien bien en relation et bien alignés sur la même longueur d'onde avec les chefs d'établissement, avec la direction diocésaine et avec tous les acteurs de l'enseignement catholique.
Alors pour en terminer sur ce point-là de cette session que vous avez vécue en début de semaine, c'était un point d'étape et pas la fin d'un travail et d'un chantier, évidemment. Alors peut-être c'est quand même important de le dire, que ce travail de lutte contre les abus, même si beaucoup a été fait, ça n'est pas terminé et c'est un travail qui est maintenant enclenché dans les process de la vie normale de l'Église.
Exactement. Et moi, je plaide pour qu'en effet, toutes ces instances qui ont été mises en place en temps de crise, eh bien, le travail qu'elles ont porté, qu'elles ont initié, désormais, soit inscrit dans le travail habituel, ordinaire, dans une nouvelle culture des instances normales de la vie de l'Église.
Quand vous avez été ordonné évêque, alors c'est une question que j'ai posée aussi à Mgr Bertrand Lacombe, qui était au micro de Radio Présence il y a quelques jours. Vous tous évêques, quand vous avez été ordonné évêque, vous n'étiez pas non plus préparé à ça. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi pour vous, d'un point de vue spirituel, eh bien, faire face. Alors en plus ici à Lourdes, il y a aussi les affaires des mosaïques de Rupnik. Enfin, comment vous, spirituellement, vous traversez, vous vivez tout ça, Mgr Mika ?
Je me dis que ça doit ressembler à ce que vivent des parents qui, quand ils acceptent de donner la vie à des enfants, ne s'entendent certainement pas à ce qui va se passer dans la vie de leurs enfants, dans la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Et ma foi, au fur et à mesure que la vie se déroule, ils s'adaptent aux situations, ils y font face avec ce qu'ils sont, leur intériorité, leur savoir-faire. Mais c'est exactement de la même manière que j'aborde ma responsabilité épiscopale.
Alors, un deuxième point important de cette assemblée plénière, c'était l'élection du nouveau président de la Conférence des évêques de France. Et Mgr Aveline a été élu à la tête de la Conférence des évêques de France. Lors d'une conférence de presse, il a présenté un petit peu son trois points importants pour lui. L'enracinement spirituel des évêques et des catholiques, la collégialité épiscopale et puis une église plus investie auprès des pauvres, les pauvres pouvant être les migrants, un tas de personnes, un tas de profils. Est-ce que vous recevez ça comme une sorte de feuille de route et est-ce que ça vous convient ? Est-ce que vous vous y retrouvez dans ces trois points-là ?
Oh, complètement. C'est surtout une feuille de route pour la présidence de la conférence et le nouveau conseil permanent. Mais évidemment, c'est la feuille de route qui s'impose à travers toutes les décisions qui sont prises d'assemblée en assemblée, de rencontres, de réflexions, aussi bien à l'échelle des diocèses que des provinces, que de l'assemblée plénière elle-même. Et donc, on se retrouve totalement dans ce qu'il a exprimé.
Pour vous, évêque de Tarbes et Lourdes, le rôle du président de la Conférence des évêques de France, quel est-il, quel genre de collaborateur est-ce ?
C'est d'abord un frère, et un frère qui nous représente dans les relations institutionnelles de l'Église de France, et ce n'est pas une petite affaire, mais un frère qui nous encourage, qui nous soutient aussi dans nos missions, les uns et les autres. Outre l'accompagnement de nos diocèses, on a tous aussi des responsabilités au niveau de la conférence des évêques. Et donc, il anime un petit peu tout ce réseau, tout ce travail, et il a pour mission de nous aider à ne pas perdre de vue que tout ça n'est pas qu'une question d'organisation, mais d'être bien l'Église du Christ qui témoigne de l'Évangile, voilà. Et dans notre pays, dans un contexte particulier, un moment de l'histoire particulier. Et donc, voilà, il est là pour nous encourager, nous soutenir et puis nous représenter.
Alors, vous parlez d'organisation. Alors justement, il y a une petite ritournelle qu'on commence à entendre un petit peu. Peut-être est-ce plus une rumeur qu'une ritournelle. C'est une question s'agissant de la fusion éventuelle de diocèses pour faire des économies. Alors des économies en termes de sous et puis aussi des économies d'évêques. Économiser le nombre et la santé de nos évêques. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que d'abord c'est une perspective à laquelle vous avez vraiment réfléchi pendant cette assemblée?
Il y a eu un article dans le journal La Croix il y a quelques jours qui en effet préconisait cela, c'est de la part d'un ancien secrétaire général adjoint de la conférence, mais c'est une opinion personnelle, alors ça fait partie des sujets qui sont de temps en temps évoqués, mais il n'en a pas du tout été question pendant cette assemblée, et quand on en parle en off, la plupart des évêques estiment que l'évêque doit d'abord être un homme de terrain, au plus proche de son peuple, et que des fusions ne semblent pas être la bonne manière d'honorer ce désir-là.
Voilà, un évêque est un homme de proximité et on le voit aussi à travers les visites pastorales qui continuent. La session va reprendre, Monseigneur, alors on se retrouvera la semaine prochaine pour poursuivre cet entretien. J'aurai encore plein d'autres questions sur cette assemblée plénière. Merci, Monseigneur Mika.
Merci, Anne-Rose, et très très bonne semaine à tous.